Le musée des Beaux-Arts de Tourcoing a reçu en 2009 une exceptionnelle donation de plus de 500 œuvres d'Eugène Leroy et est devenu le lieu de référence du peintre. Un lieu d'exposition de ses œuvres, de consultation de ses archives, enfin un centre de recherche scientifique, artistique et historique pleinement dédié à l'artiste. Rencontre avec Yannick Courbès, attaché de conservation, à l'occasion de l'exposition du centenaire d'Eugène Leroy, présenté au MUBA à Tourcoing jusqu'au 31 mars 2011. Voilà, donc on est dans la salle où sont présentées 150 œuvres, c'est ça ?
La salle ou les salles, oui, où sont présentées près de 170 œuvres, peintures notamment, et une trentaine de dessins, 13 sculptures du peintre Eugène Leroy.
Alors sur ce grand mur, on voit des œuvres de taille, de format identique, on va dire.
Oui, l'accrochage s'est voulu dans cette grande salle, la première du musée, de l'exposition. On a voulu créer une sorte d'armée de peinture avec les grands formats d'Eugène Leroy qui s'imposent d'elles-mêmes, qui sont accrochées d'ailleurs assez hautes sur un fond bleu, qui se détachent complètement de ce fond pour donner une sorte de majestuosité à l'œuvre qui n'en manque pas, mais qui montre en fait là sur des roulements qui est d'ailleurs chronologique tout le travail qu'a pu faire Eugène Leroy durant près de 70 ans de carrière.
Qu'est-ce qui peut caractériser son œuvre ? On voit bien la matière, l'épaisseur.
Alors oui, alors ce qu'on voit tout de suite et au premier abord, c'est ça, c'est la matière, l'épaisseur de la couche picturale. Mais je pense qu'avant tout, il faut y voir de la couleur. Ne pas s'arrêter justement à ce relief, mais s'attacher aux formes qui s'en détachent, puisque ce qui caractérise la peinture de Eugène Leroy, c'est qu'il s'agit d'abord d'un peintre profondément classique, même si ça se voit pas tout de suite, parce que les sujets qui l'intéressent sont le nu, le paysage, la nature morte, des sujets de la vie quotidienne, de sa vie quotidienne.
Je suppose que en voyant ces toiles à première vue, on n'a pas du tout l'impression d'œuvre figurative. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher, il faut creuser sous la matière ?
Non, c'est vrai qu'elle se donne pas tout de suite. Il faut s'acclimater d'une part avec l'œuvre, d'autre part, je pense aussi avec l'artiste, puiser en nous d'abord aussi. Et petit à petit, je pense, j'en suis même sûr, qu'on voit les formes apparaître. Mais c'est vrai qu'il faut prendre un certain temps. Ces formes sont pas visibles tout de suite. Il faut apprendre à regarder, ce qui est pas forcément facile. Là, on est dans une peinture qui est éminemment latente, avec des formes éminemment latentes elles aussi. Je pense que c'est comme toute œuvre d'art, à l'inverse de l'image publicitaire, c'est quelque chose qui s'apprend, et ça peut mettre plusieurs années.
Si on revient 100 ans en arrière, donc l'année de naissance d'Eugène Leroy.
Alors, il est né en 1910. Il a toujours été très éloigné du milieu artistique, en général, le milieu des modernes et des contemporains. Je pense que c'est dû à son caractère. Mais il l'a regardé. En cela, en fait, il a échappé à toute forme de groupe. Il n'a pas participé à des groupes, mais il l'a regardé. Il a évidemment eu beaucoup d'artistes amis, contemporains. Il a regardé aussi les peintures anciennes. C'est un personnage qui est en fait très très singulier dans son approche de l'art. Il s'est confronté toute sa vie à la peinture. Il a décidé qu'il serait peintre à l'âge de 17 ans, à la suite d'une réflexion d'un de ses professeurs de dessin. Et puis, c'est une sorte de sacerdoce véritable. Pour vivre, il a enseigné, mais très vite, il s'est détaché de l'enseignement pour ne faire que de la peinture. Et ça, j'allais dire 12 heures par jour, quasiment, quotidiennement, tous les jours, penser peinture, manger peinture, sentir peinture. L'homme se définit par l'œuvre et l'œuvre elle-même se définit par l'homme. C'est indissociable.
Donc quand on voit cet ensemble, c'est impressionnant. On sent une grande unité, une grande continuité peut-être au travers du temps dans le travail de cet artiste, dans sa carrière.
Alors, une grande unité, oui, il y a une grande unité dans son œuvre, bien que là, on a des œuvres, on n'a pas la première période, en fait, les années 30-40, qui sont exposées dans des salles plus chronologiques de l'exposition, mais on a toujours cette unité sur le sujet, de toute façon, qui est son quotidien, et cette recherche perpétuelle de ce qu'il appelle la lumière, c'est-à-dire par la couleur, comment les formes agissent, interagissent entre elles, comment elles vibrent, tout simplement, comment elles apparaissent, elles disparaissent par des effets d'ombre, de lumière, de contre-jour. Donc, l'unité, elle est là. Après, je pense que le mur qui est devant nous montre aussi une certaine évolution, une disparition de la forme, parfois, qui devient presque absente pour une réapparition dans les peintures les plus contemporaines, en fait, des 10 dernières années de sa vie. Donc oui, une sorte de permanence et en même temps toujours une quête du tableau, de la peinture. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a marqué cette phrase qui semble un peu elliptique, mais qui définit très bien son travail, qui est au-dessus de cette armée de toiles. C'est, je cite, hein, je lis d'ailleurs, « Je crois que je n'ai jamais voulu faire une belle toile, j'ai simplement voulu faire de la peinture. » Donc ça, c'est vraiment ça définit. Donc à chaque fois, tenter de renouveler son œuvre, ne jamais se copier, en fait, faire du Eugène Leroy. Et je pense que l'exposition montre bien ça, c'est qu'il n'y a pas une toile qui ressemble à une autre, bien qu'évidemment il y ait des affinités entre elles, mais ça c'est évident puisqu'il s'agit du même artiste.
À quel moment Eugène Leroy a-t-il commencé à être reconnu?
Grande question. Il a commencé à être reconnu dans la région, et la métropole en particulier. Mais ça, il faut recontextualiser. On est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on est dans un pays centralisé, tout se déroule à Paris. Il y a évidemment des groupes locaux d'artistes. Les artistes ne sont pas inexistants de la région et surtout de la métropole. Et donc, les premières expositions qu'il fait, c'est dans des galeries à Lille. Là aussi, il faut recontextualiser l'artiste et puis la région telle qu'elle l'était. Il n'y a pas de musée d'art contemporain. Le premier vrai musée d'art contemporain, c'est le musée de Villeneuve-d'Ascq, donc qui a ouvert dans les années 80. Et donc à cette époque, le premier à montrer donc de l'art contemporain sur la métropole et à Tourcoing, c'est Jacques Brandibus, qui fut le premier conservateur professionnel du musée. Donc il a montré pour la première fois Eugène Leroy en 1954. Puis d'autres artistes de la région, notamment Eugène Dedaigne. Puis après, je pense qu'il y a quelque chose de très septentrional dans sa peinture, donc il a été suivi par de nombreux Belges et Flamands, puisqu'on est quand même très proche de la frontière. Et puis il a une carrière qui est presque linéaire, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans le marché de l'art, en tout cas dans sa reconnaissance, il a toujours été exposé dans les institutions, et puis en même temps à côté, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus eu cette réussite, mais ça c'est, je remets ça entre guillemets, que certains artistes peuvent avoir, voilà. Mais il est toujours présent, il y a toujours cette, comme sa peinture est latente, sa présence elle aussi elle est latente, comme s'il avait été toujours là, et puis en même temps... en même temps absent. Et donc là, aujourd'hui, il a une reconnaissance internationale. Il est son œuvre est présente un peu partout dans le monde, donc dans des collections privées évidemment, mais aussi dans des collections publiques. Donc voilà, donc là aussi, c'était une mise au point qu'on voulait faire en faisant cette exposition-là, en la nommant d'ailleurs l'exposition du centenaire. Il y avait quelque chose aussi de très... d'important qu'on voulait imposer, c'était le faire peut-être redécouvrir et le montrer autrement que ce qu'on a pu le montrer par ailleurs. Voilà.
Cette exposition, donc, elle rassemble des œuvres. On peut avoir une idée de la provenance des œuvres, à la fois des propriétaires, entre guillemets, des hommes, mais aussi géographiquement. Où est-ce que vous êtes allé les chercher au niveau du musée des Beaux-Arts de Tourcoing, qui a d'ailleurs un nouveau nom maintenant.
Maintenant, qui s'appelle le musée MUBA, c'est la contraction de Musée des Beaux-Arts. et dont on a lié le nom à Eugène Leroy, puisqu'on a reçu quand même une donation très importante des fils de l'artiste. Donc, pour parler un petit peu de cette donation, l'idée, ce n'est pas de faire un sanctuaire Eugène Leroy, mais c'est de voir à travers sa peinture, justement, l'homme et son humanisme, c'est-à-dire le regard aussi qu'il pouvait avoir sur des artistes tant anciens que contemporains, modernes et contemporains. Répondre à la question pour la provenance des œuvres, il y a plus de 40 collections présentes au sein de l'exposition, privées et publiques. Il y a d'abord des collections régionales, et on a l'ensemble très important du LAM de Villeneuve-d'Ascq, qui sont les quatre saisons. On a après pas mal de collectionneurs privés de la région, et petit à petit, comme une sorte d'escargot, il suffit de tourner, on a été les chercher en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, voilà.
Donc on l'a bien compris, le musée des Beaux-Arts de Tourcoing, le MUBA, maintenant a vraiment une caractéristique qui est celle d'abriter cette collection et l'œuvre de Eugène Leroy. Ça devient un lieu de référence internationale aussi par rapport à ça.
Alors ça devient, on veut que ça devienne un lieu de référence internationale autour évidemment de l'œuvre de Eugène Leroy. Donc la donation qui est elle est très importante et qui couvre toutes les périodes de sa vie, donc des premiers dessins donc de 1927 à l'âge de 17 ans quand il avait 17 ans jusqu'aux dernières peintures aussi, un ensemble inédit de sculptures qui est là aussi très important, plus les archives qui arriveront très prochainement. Donc oui, centre de référence de l'artiste, mais aussi le travail qu'on doit faire au-delà de la conservation, de la préservation de son œuvre, de son étude, c'était de marquer, donc de lier l'homme au musée, c'est-à-dire de lier l'œuvre d'art, et là je parle de toutes les œuvres d'art, au public. Notre accrochage ne changera pas l'accrochage des collections permanentes, notre réflexion non plus sur la confrontation des époques et des différents arts. Il n'y a pas de salle chronologique, il n'y a pas une organisation chronologique, c'est-à-dire en faisant de la peinture du 16e, 17e, 18e, etc. Au contraire, on marche de manière thématique en confrontant les époques, en montrant qu'il y a une certaine permanence, qu'il y a aussi des révolutions dans les œuvres, qu'il y a quelque chose aussi qui lie l'artiste et son temps. Mais par contre, qu'il y a quelque chose qui dépasse ça, c'est l'œuvre d'art elle-même, qui, elle, se doit d'être intemporelle.
Yannick Corbez, je vous remercie.
Merci à vous. Oui.